Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour à tous, voici la 14e édition de Focus Store entièrement sponsorisée par la bronchite et la sinusite. Je vous demanderai donc d'être indulgent avec la maîtresse de cérémonie qui est très diminuée aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de ses magnifiques collaborateurs ici du magazine Focus Vif. Autour de la table, il y a Guy Verstraeten, roi de la nuit et des pages télé. Il y a Olivier Van Varenberg, collaborateur des pages livres. Laurent Houbrex, le petit chéfaillon des pages musique. Et Kevin Dechin, qui s'occupe de notre site web, qui est l'homme à tout faire et qui le fait très bien. On va discuter, comme à chaque fois, entre spécialistes de la critique, des sujets les plus buzzesques, buzzifiables du moment, à savoir le dernier film de Baz Luhrmann, Gatsby le Magnifique, le nouvel album de Daft Punk, la série Rectify et la BD Congo. C'est le moment, c'est l'instant, on y va. Gatsby le Magnifique, le nouveau film du réalisateur australien Baz Luhrmann, 2h23, assez fidèle au roman de Francis Scott Fitzgerald, une histoire intemporelle, celle d'un homme interprété par Leonardo DiCaprio, un homme parti de rien qui devient immensément riche pour reconquérir la grande bourgeoise de Bien-Aimée, jouée par Carey Mulligan, qui en a épousé un autre. La quatrième de couverture de la dernière traduction du bouquin paru chez Paul, que je vous conseille d'ailleurs, parle de cruauté ordinaire de ceux qui sont nés riches, de l'arrière-goût amer des lendemains de fête et de la fragilité des amours adolescentes. Voici en tout cas un petit extrait de Gatsby le Magnifique.
Est-ce que tout ça était vrai? Gatsby. Un espoir extraordinaire l'animait, mais j'avais la sensation gênante qu'il dissimulait des secrets.
Gatsby. J'aimerais bien savoir qui est cet homme et ce qu'il fait.
Gatsby ? Mais quel Gatsby ?
Alors, en sortant du cinéma hier, quelqu'un m'a dit que c'était un peu long pour une pub de parfum. Et c'est vrai que ça y ressemble. Avec une profusion de paillettes et de cristaux Swarovski. On parle de la maison Gatsby comme étant un grand parc d'attractions. Moi, je trouve que c'est carrément tout le film qui était un grand parc d'attractions, un grand Disneyland, ce qui n'était pas franchement nécessaire. Ceci dit, le scénario a réussi à conserver le profond désenchantement du roman de Fitzgerald et sa grande beauté. Je trouvais qu'il a très bien fonctionné sur moi. J'étais pas loin d'écraser une petite larmichette à la fin.
Critiques quand moi je vois un enfant qui appelle son papa dans un film magnifique à des plus grands films de
les enfants.
Et tu pleures devant un bâtiment.
Les enfants sont des tire larmes tellement faciles. Bon, Kevin.
Je comprendrais bien cette question.
Est-ce que tu as pleuré comme moi?
Je n'ai pas pleuré, non. J'ai essayé de pleurer, mais non. Mais j'ai passé un bon moment, honnêtement, mais par contre, j'ai quand même pas mal de réserve. Je trouve effectivement que visuellement c'est assez époustouflant. Si on aime tout ce qui est rococo kitsch, etc. Mais je trouve que c'est assez des super plans larges, ces scènes de fête où on a juste on meurt d'envie d'y être. Voilà, tout à fait. Enfin, c'est assez incroyable. Donc visuellement, par contre, je trouve que on rentre pas assez forcément dans les personnages. Je trouve que en tout cas moi j'ai eu un peu du mal à m'accrocher à leur histoire. Enfin, on la suit avec plaisir, mais on tombe pas d'empathie spécialement. Je trouve aussi qu'il y a un espèce de manque de méchant comme ça. Il y a d'un peu.
Mais c'est ça qui est bien, c'est que la méchanceté se niche dans les gentils, non?
Ils ont tous un petit côté méchant dans le film à un moment ou un autre, mais c'est ce que j'aime bien quand les choses sont noires ou blanches. Moi, gentil et méchant. Sinon,
c'est exactement le même problème. Enfin, tu parlais de.
On peut directement mettre ça sur la table, mais c'est exactement le même problème que l'équipe des jours, c'est qu'on est pieds.
Tout dans l'image. Quoi.
Tout était dans l'image, dans le système. Mis en place par les réalisateurs. Alors, ouais, chez Gondry, c'était c'est pas le même univers, mais il y avait une espèce de. On jouait un peu sur l'inventivité du roman, l'inventivité de l'écriture.
Il y avait une logique à retrouver Gondry sur Vian. Autant tu retrouves Baz Luhrmann, comme tu disais, Rococo, c'est très baroque, très too much dedans, se retrouver sur un roman dit inadaptable, où effectivement, en littérature, tu peux mettre du clinquant et des paillettes et des millions dans chaque page, à l'image, de fait, ça se retrouve. Donc ça, il faut lui laisser. C'est très visuel et ça pète, etc. Maintenant,
et du coup, voilà. Ça tient en effet un peu à distance des émotions, des exactement. Personnages qui sont en effet que des personnages. Et...
Mais c'est dû, je pense que c'est dû aussi au fait que, bon, il y a Tobey Maguire qui joue le rôle du narrateur et qui n'est pas l'acteur le plus charismatique au monde. Je trouve que c'est un bon acteur, mais ce n'est pas quelqu'un pour qui tu as énormément d'empathie.
Mais aussi.
Oui, il est le jeune premier.
Il ne pouvait pas manger la vedette à.
Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand il jouait dans Spider-Man, autant dans Spider-Man, on lui demandait justement d'avoir cette tête de monsieur tout le monde. Ouais. Et autant ici, c'est sûr que c'est lui qui lance l'histoire. C'est lui qui accroche l'histoire. C'est à lui que t'es obligé de t'accrocher finalement pour rentrer dedans. Or, moi, je trouve qu'avant que Leonardo DiCaprio apparaisse à l'écran, avec le charisme qu'on lui connaît...
C'est très long.
C'est très long.
Mais et tout est très long. Hein,
ça dure longtemps. Mais une fois que DiCaprio se tourne dans ce fameux plan où il parle à Tobey Maguire... Il commence à y avoir un peu plus de chair dans le film.
Je trouvais qu'à un moment là, on était dans la limite du grotesque où il se retourne un peu à James Bond et I'm Gatsby. Oui, mais... Tu sens le truc, t'attends l'image et.
Tout à fait, mais dans la manière dont il habite l'écran, ouais, tu peux pas nier que DiCaprio.
Il a plus de charisme, c'est sûr.
Ouais, il a quelque chose, il prend la place. Ouais, il prend la place. Après, bon, voilà, on peut aimer ou pas aimer. Le côté all sport, tout le film, ça m'a pompé l'air.
Il veut dire all sport autant de fois que nigger dans Django Unchained. C'est très énervant.
C'est très énervant. Mais c'est sûr que c'est.
Mais ça correspond parfaitement au bouquin.
Bien entendu.
C'est quasi plan par plan.
Et c'était le problème du Condry aussi, c'est qu'il était par moments trop fidèle au bouquin et à ne pas s'en détacher plus. Finalement, il est piégé aussi par son manque d'adaptation.
Mais ça, c'est toujours la question de l'adaptation de bouquin au cinéma. C'est pas parce que. Est-ce que l'important, c'est est-ce que c'est bien adapté ou l'important, est-ce que c'est un bon film? Moi, je pense plutôt que l'important,
c'est. Mais si les références au bouquin sont permanentes, parce qu'il y a ce jeu avec l'écrit qui revient en boucle même à la fin où. Je n'ai pas lu, je n'ai jamais lu Le Fils Gérald. Je ne sais pas si le narrateur, effectivement, écrit un bouquin aussi. Et on finit par avoir le livre qui deviendra le Gatsby le Magnifique. Il y a cette référence littéraire en permanence dans le film.
C'est une bonne idée, je trouve.
Oui, c'est une bonne idée, mais ça veut dire qu'il joue la référence au bouquin. Ouais. Ouais. Donc c'est une adaptation qui se veut littéraire et liée au sujet.
Mais ça n'empêche pas, on revient à ce qu'on disait sur le all sport, que cette expression
peut
plaire. C'est lourd. Sur le long terme, on en a vraiment un petit peu marre. On aimerait bien qu'il change un petit peu de registre.
C'est que c'est à chaque fois.
Mais voilà, bon, Lurman fait des choses avec une. Il sait tenir une caméra, il sait comment composer un plan, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, c'est sûr que. On parlait parce qu'on a été le voir ensemble.
Ouais.
Je fais une petite référence à notre ami, à mon ami Simon Le Saint, qui est l'auteur de la fameuse phrase sur le parfum. Il y a quand même Carey Mulligan. Donc, qu'est-ce que tu me disais exactement hier par rapport à
elle ? Qu'on a envie de la taper, non ?
Je pense que c'était plus subtil que ça.
Ah oui ?
Je pense. Ah non, tu avais dit qu'elle avait une. Non, je
sais pas. Moi je la trouve relativement insupportable. Par contre, il y a son sosie dans le film. Qui joue dans la série dont on va vous parler un petit peu plus tard. Voilà, la série Rectify.
D'où ce grand moment où tu enlèves tes lunettes au cinéma, où j'enlève les miennes aussi. Tu as vu ?
Parce que vous avez été le voir en 3D, donc.
Oui, absolument. Alors la 3D, ça apporte quelque chose ou pas ? Moi, pour ma part, pas du tout, à part une migraine.
Par rapport au film, ça te met une distance, ne plus que ces lunettes sur mes propres lunettes, ce qui est insupportable.
Tout à fait, c'était.
Ça te retire du film.
Mais ça, si tu es déjà pré-handicapé, c'est pas de la faute de ma part.
Ça n'est pas un handicap, pardon.
C'est superficiel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Ça n'a pas beaucoup de sens. T'es pris par la mise en scène, alors que t'essayes a priori qu'on te raconte une histoire quand c'est sur de l'animation. C'est fait pour ton propre plan émirette. Ici, tu es quand même censé suivre une histoire qui finalement est relativement simple. C'est une histoire d'amour, presque une bluette entre quelqu'un qui est trop amoureux d'une fille qui ne l'aime pas assez.
Et puis il y a tout le discours un peu bling-bling, enfin anti-bling-bling. C'est ça qui est un peu pervers ou très malin dans le film. C'est que Lerman utilise des procédés complètement bling-bling, en met plein la vue pour dénoncer une espèce de mode de vie, justement très sur l'apparence, très bling-bling, très. Avec une BO dans laquelle on retrouve Jay-Z, enfin, qui est producteur en partie.
Le film, c'est sa BO. C'est quand même un drôle d'argument. Quand tu regardes un peu les articles qu'il y a autour, on parle surtout de la musique du film.
Bon. Bah, c'est un parti pris qui désarçonne, mais j'arrive pas à dire. Mais voilà, je sais pas en fait.
Moi, je trouvais que c'était une injection de modernité qui n'était pas nécessaire.
T'as envie d'entendre du jazz. On parle de Fitzgerald comme le roman jazz des années 20 et tu tapes Jay-Z dans la. J'aime beaucoup Jay-Z, mais ça joue. C'est presque grotesque là aussi, le décalage.
Ouais, exécutif.
Parce qu'il en a deux ou trois dedans, c'est pour ça alors.
Il y a quelques moments où ça marche quand même relativement bien.
La bonne musique qui gueule avec l'ambiance.
Justement, dans ces scènes de fête, taper du rap sur des gens qui dansent le Charleston, je trouve que.
Mais alors, est-ce qu'il y avait pas une vraie adaptation ? et faire Gatsby le Magnifique voilà, en exactement, 2013 exactement. Avec la musique d'aujourd'hui.
Il y a un bizarrement,
raison d'être de cette anachronisme.
C'est pas New York des années 20 non plus, c'est aussi exagéré, c'est aussi complètement pas les décors.
Ça,
oui, c'est ça. À partir du moment, enfin, c'est pas uniquement la musique qui est décalée, c'est aussi les décors, les images qui sont complètement extravagantes. C'est pas seulement, il y a des images presque qui, vous voyez, cette sous-culture, cette dolphine quelque chose où on, qui se base un peu sur ces images de dauphins un peu fluo comme
oui,
ça.
Oui,
voilà,
c'est
il y a des plans, qui, voilà, les licornes, c'est exactement ça. Il y a des images qui sont tout à fait dans cette culture-là, quoi. Donc à moitié kitsch, à moitié ouais, bling bling, extravagant, et on est vraiment dans cet univers visuel-là.
Il faut bien reconnaître que, en termes de décor, en termes de mise en scène, en termes de mouvement de caméra, etc., il y a quelque chose quand même d'assez fort, et justement ce parti pris musical qui est étonnant et sur lequel il y a moyen de se faire un avis en tout cas. Mm-hmm. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un vrai être pour ou être contre en tout cas sur ça.
Absolument, Guy, tout à fait. Je trouve que tu as raison sur ce point. Bon, alors on va mettre une petite cotation. Moi, je lui mets 7 sur 10.
Moi, je lui mets 6.
6.
6.
Ouais, un petit 6.
Aha! Quelle victoire!
Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Jean-François Pleugers, depuis Cannes, nous a envoyé un papier à ce sujet, puisque c'est le film qui faisait l'ouverture du festival, et qui nous a dit que Baz Luhrmann s'appropriait lumineusement le classique de Fitzgerald, dont il restitue l'ampleur romanesque et visionnaire, les paillettes et ouvrant sur l'abîme en trois dimensions. Il lui a mis quand même 3 étoiles sur 5, ce qui est bien, mais pas top.
Voilà, c'est bien.
Le disque de la semaine, du mois, voire de la saison, peut-être même de l'année, c'est celui de Daft Punk, Random Access Memories. Que dire qui n'a pas encore été dit à son sujet? Pas grand-chose, malheureusement. C'est le disque le plus commenté, glosé, moqué, porté au nu, voué aux gémonies du moment. Grosse campagne marketing, gros chiffre de téléchargement pour le single Get Lucky lors de sa sortie il y a quelques semaines. Même si Sébastien Patrick et son titre, quand il pète, il trouve son slip, lui avait ravi la première place en France. Je vous passe rapidement un petit morceau de cette chanson, pas la Sébastien Patrick, hein, la Daft Punk.
Ça changerait. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. De collaborations à noter sur ce disque avec Pharrell Williams, Julian Casablanca des Strokes, avec Panda Bear, Nile Rodgers de Chic, Paul Williams et Chili Gonzalez pour ne citer que. Et au final, un son rétro, futuristico, disco qui n'a pas l'air de plaire à ce monsieur les hipsters pour être cool dans le monde moderne. Sachez qu'il faut dire que l'album de Daft Punk, c'est de la merde. Et comme j'assume pas du tout, comme j'assume tout à fait le fait de ne pas être cool, je peux le dire. Et bien, j'ai bien aimé ce disque. J'ai même dansé dessus dans la salle de bain. Mais c'est un disque pour danser dans sa salle de bain.
Et comme disait Shakira, my hips don't lie. Est-ce que condité hanche à ce sujet, Laurent?
Ben ouais, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien, mais il faut tout de suite mettre les choses au clair, c'est que c'est pas du tout un disque électro, alors que enfin Daft Punk aujourd'hui il est Daft Punk est présenté comme un groupe français qui a un peu révolutionné la musique électronique en l'amenant pas en l'amenant dans des nouveaux territoires, absolument pas, mais en faisant un objet complètement pop, quoi. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est vraiment un album pop. Et c'est même, moi je trouve, c'est même une espèce de discours comme ça sur la pop actuelle. Alors ils le font, leur discours,
tu
c'est quoi?
Tu parles de métadiscours comme la dernière fois?
Non, il a sorti sa pop qui parle de la pop.
Son catch mot.
Je me suis retenu jusqu'ici, mais c'est un peu ça. Alors le discours, c'est quoi? C'est un discours assez réac, finalement. Ah bon.
Passéiste.
Ils complètement passéiste, ils reviennent à un gros travail de studio, à des références disco, prog rock, rock, même pop FM début des années 80. Donc, il n'y a absolument rien de neuf, on est bien d'accord. Mais, justement, aujourd'hui, ils amènent quelque chose qui va complètement à contre-courant, c'est-à-dire un disque leur discours, c'est de dire bah, aujourd'hui, tout est produit sur des laptops entre, dans des lounges d'aéroports, entre deux villes. Et c'est vrai, c'est un peu comme ça que ça se passe aujourd'hui dans l'électronique. Eux, ils font complètement l'inverse.
C'est eux qui ont participé à poser ça aussi.
Tout à fait. Oui. Donc aujourd'hui, ils viennent avec une démarche complètement inverse. Alors après, ça pourrait être juste qu'un discours, mais je trouve que le disque derrière a assez de qualité.
C'est pas un disque très organique non plus, c'est quand même très synthétique comme sonorité.
Mais c'est un peu le paradoxe aussi, c'est que à force d'avoir passé autant de temps finalement en studio, c'est tellement parfait, la production est tellement léchée par endroits que ça, quelque part, on déshumanise un peu ouais, ça devient. Donc oui, il y a une espèce de paradoxe, mais c'est ça aussi qui est intéressant dans la démarche. Et voilà, on en fait quelque chose qui fonctionne malgré tout. Enfin, Get Lucky, c'est quand même incroyable de voir à quelle vitesse. Alors, on peut dire qu'il y a toute une machine marketing derrière.
Un truc efficace,
mais pas seulement.
Bien sûr.
Get Lucky, pas seulement. C'est probablement le tube le plus instantané
et le plus insupportable.
Il
va vite devenir insupportable parce qu'on va l'entendre signer.
Mais il y a sa version 2.0 dans l'album aussi, Lose Yourself to Dance.
Oui, mais je veux dire, c'est d'une évidence. Qui est quand même assez exceptionnel. Écoute, Get Lucky, c'est difficile de pas vouloir. Enfin, justement, tu disais que t'es.
Oui, comme tous les bons morceaux de disco te donnent envie de bouger un peu, etc. Moi, c'est ça que je reproche à ce disque. C'est ce disque m'a profondément énervé. Parce que c'est pas un mauvais album. Il y a des trucs super efficaces, c'est très bien produit. T'en as très bien parlé dans les pages. Ça apporte plein de choses, mais. Bordel, c'est un disque de disco en 2013 et c'est vraiment un disque de disco quoi. C'est un disque dommage. Évidemment, on l'a écouté ensemble plus ou moins sur Facebook en un moment et on se disait mais qu'est-ce qui se passe quoi. T'écoutes le premier, bon, ok, c'est disco, c'est un très bon morceau. Le deuxième, c'est disco. Le troisième, c'est. Et tout est vraiment disco. Il y a du vocoder sur tous les morceaux quoi. Sur tous, et on est proche de la caricature et on est dans l'hommage pur au disco sans que ça amène quelque chose quoi. Homework, c'était quand même de l'électro et du funk qui avait. Une fusion, ça t'amenait quand même un step beyond, quoi.
C'était une version popularisée de la house et de la
musique techno. Mais ça a marqué, qu'on parle de bande originale d'une époque. Voilà, Homework, ça a marqué quand même un son, une époque, une manière de faire. C'est ça qui est inquiétant. Tu parlais de disque réactionnaire. Si ce disque est la bande-annonce de la bande originale de 2013, c'est vraiment une cata, parce que ça veut dire qu'on n'a même plus rien de neuf, quoi. On ne va que chercher.
Le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est que dans la musique. Il n'y a absolument plus rien de neuf.
Et que constat,
tout est un discours sur les musiques du passé.
C'est terrible, ça, c'est absolument... sans poisson, quoi.
Et donc, Daft Punk prend le biais de la disco, mais toutes les musiques qui sortent aujourd'hui, en gros, sont des références à, sont des disques postmodernistes qui reprennent des influences d'eux.
Et tu pourrais attendre d'un groupe comme celui-là qui met 10 ans à revenir, qui en fait des kilos et des kilos sur son retour, etc., qui l'amène quand même quelque chose d'un peu neuf. Et il n'y a vraiment rien de neuf dedans. Il y a du très bon son, c'est très bien fait, mais vraiment, au niveau nouveauté ou...
Il y a du risque.
Et c'est même pas du nu disco, c'est vraiment du disco, quoi.
Mais à contrario, donc je faisais référence à mon cher ami Simon Lessard, il n'y a pas si longtemps.
On le salue.
On le salue, si tu nous entends. Il disait, combien de fois Daft Punk va devoir révolutionner la pop pour qu'on le laisse un peu tranquille, en fait, quelque part. Et il y a de ça aussi, c'est que c'est vrai que Homework a été une bombe et que j'écoute toujours cet album avec un plaisir qui est incroyable. Que Discovery a été un son complètement neuf, vraiment. Quand Discovery est sorti, moi, c'est un album qui m'a donné de l'urticaire au départ parce que One More Time, ça reste l'une des chansons que je déteste le plus au monde, vraiment. Mais par contre, le reste de l'album, il y a quand même des choses assez merveilleuses là, dans Discovery. Et ici, Daft Punk a une ambition qui est démesurée, je trouve. C'est-à-dire qu'ils font des chansons qui sont...
C'est dire que l'ambition, c'est de faire le meilleur morceau de 74, quoi. C'est
oui,
ça
non,
qui
mais,
est terrible.
Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont l'ambition de faire des grandes chansons.
Tu le sens, toi.
Moi, je trouve qu'ils veulent faire des grandes chansons. Et arrête de te moquer de moi tout le temps à chaque fois que je dis quelque chose, parce que je vais faire le tour de la table.
Moi, je le sens pas comme ça. Je connais pas personnellement.
Tu sais à quoi je vois ça. Dans cet album, tu sais reconnaître chaque chanson, en fait. Tu vas dire, ouais, celle avec Point d'Aber, celle avec Julien de on sait reconnaître chaque chanson, j'ai l'impression, Contact, on sait reconnaître. Moi, ça, c'est pas un album, c'est pas un album où je remarque une espèce de linéarité, comme ça, et où ça devient un peu flou. Ici,
c'est un véritable album. C'est-à-dire, dans le sens où on peut complètement s'immerger dedans. Et même les morceaux qui fonctionnent moins bien, bah on est malgré tout happé par le truc.
Et tu reconnais le voyage. Le morceau.
Mais par contre, je vais dans l'inverse de ton sens. Je trouve que effectivement, s'ils ont chacun une identité, tu restes quand même dans un espèce de truc assez
assez mou du genou au global, comme ça.
Ça n'a pas beaucoup de couilles, cet album. Quoi. C'est un son très sympa, ça, mais t'entends à un moment un morceau qui va un peu t'énerver, quoi, tu vois, ou que tu le danses à la tête en avant et plutôt pas avec les hanches.
Mais il y a un morceau comme Contact, celui avec Moroder.
Contact, c'est le dernier, il faut l'attendre. Il faut attendre la fin.
C'est aussi une proposition avec Moroder, l'interview, l'interview sur le morceau, etc. C'est quand même assez intéressant. Mais là où je voulais en venir, c'est. Parfois, il y a des choses qui sont assez fabuleuses et d'autres qui deviennent vraiment too much, qui deviennent kitschissimes de trop. C'est-à-dire, par exemple, tu prends une chanson comme Within et une chanson comme The Game of Love, par exemple. Autant je trouve que Within, c'est une espèce de balade triste, mélancolique qui te prend, autant The Game of Love, ça rentre dans la caricature. Ouais, et tu pourrais mettre un film érotique d'AB3 derrière, des sièges en velours.
C'est pas parce que ça a 30 ans d'âge que du coup, c'est
non.
bien
tu vois, ah
c'est
non ça pas du est... tout ça, et ça je trouve que ça devient vraiment trop sucré, trop ouais. C'est... mais Discovery, l'expérience Discovery étant, je préfère pas trop me prononcer sur un album de Daft Punk avant que le temps fasse son
effet. Moi, je trouve que cet album a ceci d'intéressant, que plus on l'écoute, plus on y découvre des choses, un peu comme l'album de Phoenix la dernière fois. Je trouve que et pourtant, c'est vraiment pas évident parce que les chansons ont l'air simples en fait ici, mais il y a aussi beaucoup de couches qu'on détermine pas à la première.
Tu trouves pas beaucoup de poils aux pattes quand même, quoi. Moi, ça manque d'un morceau qui, encore une fois, un peu de coronet, c'est qui te bouge un peu. Et tu n'as pas ça, quoi. T'as du son. Du très joli son disco, très bien travaillé avec, encore une fois, des mélodies qui cartonnent et ça va marcher. Sans doute qu'ils ont leur plus gros succès public avec cet album-ci. Mais...
je sais pas, il y a quand même plein de morceaux qui sont pas évidents, qui font 9 minutes, ouais, 8
c'est
minutes.
C'est vrai que le calibre est chaque fois un peu plus long que le standard, mais ils vont sortir des bonnes petites versions faites, des radio-édites, comme on dit, à l'appel, je pense.
Est-ce que aussi un grand morceau, pour te reprendre tantôt, est-ce qu'un grand morceau, c'est forcément un long morceau parce que...
Non, pas du tout.
Non, mais je jette la question, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent souvent essayer de dire tout ce qu'ils peuvent sur le même morceau et ça s'éternise un petit peu, quoi.
Mais justement,
contrairement à des morceaux,
c'est là que le temps va faire son effet, à mon avis. C'est là que dans quelques temps, quelques mois, quelques années peut-être, on va réécouter ça. Et à mon avis, il est pas impossible que Daft Punk ait de nouveau.
Mais de nouveau quoi? Ça veut dire qu'on va se taper de la disco pendant 5 ou 6 ans
c'est
qui
pas
viennent.
Impossible.
On en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission. J'écoutais des radios privées. Tu sens qu'il y a un son qui revient et on écoute du Daft Punk, du Moroder, mais on écoute aussi du Ottawan. Ça veut dire qu'on va se taper de nouveau des années de grosses bouses disco parce qu'on a remis ce son à jour, encore une fois, sans rien apporter de plus, quoi. C'est ça qui m'énerve dans ce disque.
Mais t'as un Guetta.
Ça n'apporte pas.
Un Guetta, par exemple, qui a révolutionné. Là, j'aime pas ce qu'il fait, mais il a révolutionné complètement la pop. De ces dernières années parce que tout son pop sucré est quelque part la patte Guetta. Je préfère que Daft Punk fasse ceci et pose les jalons d'une nouvelle révolution pop quelque part qui serait peut-être plus instrumental ou peut-être plus... Je sais pas. Qu'il y a d'autres
Daft Punk, on en parle comme de la pop aujourd'hui. On n'en parlait pas tout à fait comme ça il y a 15 ou 17 ans. Quoi. C'est ça le...
Mais c'est parce que
c'est qu'il travaille un peu le truc. Quoi.
Ouais, ça, c'est du mainstream. Parce que,
voilà. Ouais, mais tu vois, on écoutait leur dernier album qui était la BO de Tron Legacy. C'est vraiment un super album qui est là, vraiment pur électro, où ça ne joue que là-dessus.
C'est une BO, ça.
C'est une BO. On retrouvait le Daft Punk qu'on avait pu trouver dans les albums précédents. Et ici, tu dis, c'est un album d'hommage qui fait une sorte de parenthèse dans le reste, mais cette parenthèse est longue et on en fait des kilos autour de cette parenthèse qui, pour moi, n'est qu'une parenthèse qui apporte pas grand-chose au Schmilblick, quoi. Ça,
si on le concluait.
On verra bien.
Oui, ben voilà, c'est bien ça.
On verra bien, c'est une phrase qui fait beaucoup de bien.
C'est très bien, on peut la ressortir plus tard dans l'émission. 7 sur 10 pour ma part.
3 sur 10 pour ma part.
8.
7. Moi j'assume, on ne déteste que ce qu'on a aimé, je mets 2. Voilà, je suis dur aujourd'hui, Écoute, toi tu pleures devant Gatsby, donc moi je mets 2 à Daft Punk.
Mais je pourrais mettre de 1 à 10 par exemple, voilà.
D'accord.
Tu vois moi ce que j'ai dit ?
Oui, non.
Ça n'a aucun intérêt.
Bon. On va bien. La série dont on parle aujourd'hui s'appelle Rectify. C'est une série américaine de Sundance Channel, la chaîne de Robert Redford. Eh ouais. Elle vient d'égrener sa première saison de 6 épisodes seulement. Elle est renouvelée au moins pour une suivante. Et c'est la série dont tout le monde parle en ce moment.
C'est vrai qu'elle est très très particulière, très lente, très contemplative, un rythme qu'on n'a vraiment plus l'habitude de voir à la télé. On y suit un homme d'une quarantaine d'années, Daniel, qui sort de prison après 20 ans de réclusion, après être passé même par le couloir de la mort, et relâché grâce à de nouvelles preuves ADN, le temps qu'on lui prépare un nouveau procès. Alors il reprend sa vie, là où il l'a laissée, comme s'il avait 20 ans à nouveau, en décalage total avec le monde qui l'entoure, et sans savoir très bien comment utiliser toute cette liberté. Je vous propose de regarder rapidement à quoi ça ressemble en vrai. As I went down in the river to pray, Daniel Holden confessed to killing Hannah. The sentence was vacated on a technicality, which sure as hell does not make him an innocent man. Oh God. This boy was just a baby when they put him in. 18.
Read all about your half-brother.
Stepbrother.
Hey, how is he?
Well, he's on death row for 19 years.
Good
morning. You know, been through a lot.
Alors l'acteur qui joue Daniel est un Australien qui s'appelle Aden Young, qu'on n'a pas vu dans grand chose de signifiant, mais qui est, je trouve, tout à fait parfait dans ce rôle d'ancien taulard, à la fois très innocent, très enfantin et très inquiétant. D'ailleurs on ne sait pas vraiment, en tout cas pendant une grande partie de la série, s'il est innocent, s'il est coupable.
C'est pas le sujet.
Non, c'est vrai. Enfin quoique, comme il est encore relativement suspecté par une partie de son entourage proche et lointain.
On n'en parle pas en tout cas.
Non. Les autres personnages, je trouve, ne sont pas forcément aussi intéressants que le sien. Je suis assez mitigée par rapport à cette série. Je crois qu'il y en a qui ont beaucoup aimé autour de la table. Je trouve que c'est très interpellant, très intéressant par rapport à ce qu'on nous sert à la grosse louche par ailleurs. Mais je ne sais pas, je suis quand même toujours un peu restée à quai. Guy, toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
Donc sur Sundance CNL, on avait parlé récemment dans un focus sur de Top of the Lake, qui était la série de Jane Campion,
formidable.
Qui était formidable, où il y avait un rythme assez particulier, donc un rythme assez lent, mais où on accrochait réellement à tous les éléments de l'histoire, parce qu'il y avait une intrigue qui était tricotée de manière assez assez belle
et assez dense, assez serrée aussi.
Tout à fait, et qui nous donnait chaque moment quelque chose d'intense, quelque chose à découvrir. Ici, il y a un côté un peu contemplatif dans Rectify, qui est peut-être un peu trop contemplatif. En tout cas, c'est ce qui m'a laissé hacker, comme tu l'as dit, moi aussi. Je suis resté un petit peu en retrait parce que c'est trop lent pour moi. Je trouve que c'est vraiment un peu trop lent, un peu trop contemplatif, pardon. Le personnage principal, même s'il est très bien, effectivement, il a quand même un petit côté autiste qui m'a crispé.
Ça, on va attendre dans une boîte.
Ouais, non, mais tout à fait. Mais il est là et toujours chaque réplique est dite lentement, avec un temps d'attente, le temps qu'il puisse réfléchir à ce qu'il dit. Il dit des choses assez interpellantes, par ailleurs, mais ça dure longtemps. Donc voilà, c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Après, il y a une vraie qualité, il y a quelque chose, l'intérêt de ce garçon qui sort et qui finalement a toujours 18 ans quelque part, parce qu'il est sorti, qu'il est resté 20 ans dans une petite pièce. Ça fonctionne très très bien, cette partie dans la prison où on le voit justement dialoguer avec ses co-détenus qui sont dans les cellules à côté, qui sont les pires crapules, mais c'est les seuls avec qui il a encore une dose d'humanité quelque part. Ça fonctionne très très bien, mais voilà, quand il sort, c'est plus compliqué. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien, selon moi.
Mais c'est vrai que il y a le rythme, c'est vrai qu'il est assez lent, mais il y a aussi les personnages auxquels on s'accroche difficilement. Il y a le personnage de la sœur.
Oui, donc, moi aussi, je l'ai trouvé hors sujet, en fait, ce personnage.
Le personnage de la sœur qui est un peu la seule à s'occuper de son frère qui vient de sortir de prison.
Donc, d'énergie.
Mais qui est la seule qui fait en effet preuve d'énergie. Les autres, la mère, par exemple.
Elle dort.
Et quand il rentre, par exemple, avec lui, donc il sort de prison et rentre à la maison, c'est une ambiance très, très pesante. Enfin, alors qu'on se dit que, en ce moment-là, ça devrait être la fête, mais pas du tout.
Il n'y a aucune
facilité. Comme ça. Oui.
Il n'y a aucun
personnage qui est vraiment auquel on peut vraiment se raccrocher comme ça, qui est très très chaleureux. Donc le rythme qui est en effet assez pesant, plus cette espèce de chape de plomb comme ça, ces personnages qui sont. C'est vrai que du coup on a un peu de mal à rentrer dans le truc, mais une fois qu'on se laisse happer par l'ambiance.
Je trouve que le personnage de Daniel est tellement prenant, touchant qu'il happe tout le reste qui est autour.
C'est quand il se masturbe avec un magazine porno, ça t'a parlé.
Mais il y a des scènes
ça m'a rappelé
tes propres expériences.
Non, mais je trouve qu'il est tellement touchant dans sa manière d'agir et tout ça, de ce décalage. Ouais. C'est ça, et il est à la fois touchant et
complètement à côté de ses pompes. Mmh. Et c'est ça qui fait que tu rentres dedans et t'es assez pris au jeu, je trouve. Et que tous les personnages, effectivement, en eux-mêmes, ils ne servent pas à grand-chose, mais ils font que compléter ce personnage central qui est vraiment prenant, quoi, je trouve.
Mais toi, tu m'as dit que tu as failli pleurer.
Voilà, toi, comme toi dans Gatsby.
Oh, oui,
non. On le cherchait autour de cette
table. Pour une fois que c'est nous.
Écoute, moi, Olivier. J'ai pas pleuré cette fois-ci.
Non, j'ai eu plusieurs fois la grosse boule en fin d'épisode.
C'est vrai que c'est poignant, c'est quelque part poignant. Je trouve que c'est comme un long film d'auteur, hein, quelque part.
Un long film d'auteur.
Non, mais c'est vrai, un film d'auteur qui dure une heure et demie ou deux heures, si on, à la limite, ici c'est un film d'auteur qui est répété sur 6 fois 45 ou 6 fois 50 minutes, c'est parfois un petit peu difficile, je trouve.
Bon, ils reprennent quand même de temps en temps des codes purs américains pour remettre style à la fin du cinquième épisode où il se passe.
Oui, il y a un cliffhanger.
Assez important, il y a quand même des moments comme ça. Mais c'est surtout moi l'acteur, l'intensité du gars qui m'a impressionné sur les premiers épisodes où je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai reçu ton petit message, on va regarder ça, je savais pas du tout ce que c'était. Et j'étais vraiment surpris, quoi. J'étais vraiment pris en dehors des sentiers auxquels je m'attendais pendant les premiers et deuxièmes épisodes. Après, ça s'étiole. Il y a tout un côté très christique autour du gars, qui limite à un moment, tu te demandes si t'es pas dans une propagande born again très spéciale où c'est à cause de Dieu pendant pratiquement deux épisodes. Mais l'intensité du personnage et le réalisme de ce qu'a dû vivre ce type, parce que bon, ça reste grotesque comme terme. Hop, j'étais 20 ans dans une boîte à chaussures, ce qui était le cas, et on le sort, et qu'est-ce qui se passe? Et ça t'amène à une autre part. À un moment, un des personnages dit c'est quelqu'un qui est ésotérique. Il y a ça, il est complètement à côté de la réalité. Il a appris, il a fait tout ses propres codes pour survivre là-dedans, parce qu'il n'a pas été qu'en prison, il était dans le couloir de la mort. Donc il a passé 20 ans à penser qu'on allait le tuer. Et donc j'ai trouvé vraiment que c'était très intense.
Il est face à une infinité de possibilités. Il se recrée des propres carcans, exactement, notamment religieux, pour avoir une ligne directrice dans sa vie.
On se voit dans sa chambre à faire les mêmes pas qu'il fait dans sa cellule, très mal à l'aise par rapport à la dialectique où c'était pour se protéger, il n'utilisait plus ce genre de choses. Donc je trouvais que c'était vraiment original d'avoir ça. Et je trouvais que le personnage s'étiolait justement quand il redevenait un peu plus normal. Quand il commence à reprendre des sentiments, quand il prend des gens dans ses bras, quand il vit des émotions, ça devient moins intéressant, mais... Vraiment, sur les deux, trois premiers épisodes. Et sur la fin, on revient quand même à la première question qui est de savoir...
Ne spoil pas.
Est-ce qu'il l'a tué ou pas?
Voilà.
C'est vrai qu'au départ, le premier épisode, il me semble, on a un début d'intrigue policière, entre guillemets. Donc on se dit qu'en parallèle à cette espèce de redécouverte du monde et de la liberté, on va également avoir la résolution de l'intrigue. Or... Très rapidement, cette partie-là est complètement évacuée.
Il y a ce suicide qui se fait, il y a un personnage qui se suicide, mais il disparaît pendant...
Ce qu'il faut savoir, c'est que cette première saison de 6 épisodes se déroule sur une semaine, donc en fait, on a un épisode par jour, quoi. C'est quand même très rare à la télé.
Tout à fait, mais c'est vrai que je pense sincèrement que si le côté intrigue policière dénouait un peu le nœud de ça, est-ce qu'il est réellement coupable? Est-ce que, avec des flashbacks, peut-être, je pense que ça aurait été peut-être un peu plus...
Mais j'imagine qu'il faut plus qu'une semaine aux enquêteurs pour enquêter.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui rend la série singulière.
Ça la rend singulière. Il n'y a aucune facilité. Donc, il n'y a vraiment aucune facilité. Par exemple, là, tu parlais du personnage de la sœur. Moi, j'aime assez son dynamisme. J'ai beaucoup d'empathie pour elle parce que tu as l'impression qu'elle s'est vraiment battue pour son frère. Et par contre, que reçoit-elle de lui? Finalement, pas grand-chose. Et c'est vers un autre personnage que lui se tourne, quelque part contre toute attente. Et il n'y a pas de facilité. Donc, tes élans, quelque part, sont chaque fois un peu coupés, mais c'est ce qui fait un peu la beauté de la série et ce qui la met à distance, je trouve.
Bon, alors, sur 10, moi, je mets 7 quand même, parce que c'est vraiment un truc assez inédit. Donc, voilà, ça a le mérite de l'originalité.
Moi, je vais aller jusqu'à 9. Ça m'a vraiment, vraiment pris... Voilà.
Les amis de Kevin, vous savez ce qu'ils
font. Voilà.
Un 7.
Entre 7 et 8, plutôt 7. Et 8.
Oui. Un petit 8 simple, je suis pas loin de la vie de Kevin.
Et pour terminer le tour de table des objets culturels qui nous intéressent en ce moment, on a ceci, une BD, Congo, avec un K comme dans Conrad, comme dans Joseph Conrad, l'auteur d'Au cœur des ténèbres, qui a écrit ce classique de la littérature anglaise à la suite d'un très éprouvant voyage en bateau à vapeur au Congo, dont il sera rapatrié pour dysenterie. Bon appétit. C'est ce voyage infernal que nous raconte cette BD magnifique, dans un noir et blanc vraiment sublime, qui raconte la colonisation du Congo à la fin du 19e siècle, au tout début. Toute sa cruauté, les désillusions qui attendent au bout du chemin les gens de bien, parce qu'il y en a eu. Ouais. Paru chez Futuropolis, Congo est scénarisé par Christian Périssin et dessiné par Tom Tirabosco, un Français, un Italien...
Suisse.
Un Suisse, pardon. Congo, c'est aussi un énorme coup de cœur de notre ami Olivier Van Verenberg.
C'est vrai.
Tu lui as mis 5, je pense, au focus.
Tout à fait. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je suis d'ailleurs pas le seul. Je crois qu'ici, autour de la table, ça fait plus ou moins l'unanimité. Ça a gagné beaucoup de prix. C'est reconnu comme un gros, gros travail un peu. Pour l'instant, le grand œuvre de Tom Tirabosco, qui est un auteur suisse tout à fait particulier, qui a un graphisme bien à lui, qui se fait, de manière générale, au gros très gras. Ce qui n'est pas dans l'habitude de la ligne claire, etc. Et ici, c'est plus de 3 ans de travail dont il est ressorti lui-même épuisé, très proche du voyage.
Dysentrique,
je ne sais pas, on lui demandera, mais en tout cas, voilà, au bout. Et tu l'as dit, Congo comme Au cœur des ténèbres, comme Apocalypse Now, comme tout ce qui a été tiré du bouquin de Conrad qui est mythique, c'est effectivement la descente d'un fleuve dans l'Afrique, et donc c'est une dénonciation du colonialisme et de tous ces errements humains, mais c'est aussi surtout une plongée dans la folie humaine. C'est ça qui est intéressant, et dans Apocalypse Now, l'adaptation qu'on a fait et qu'on retrouve ici, puisqu'il faut expliquer donc que Joseph Conrad, avant de s'appeler Joseph Conrad, s'appelait Konrad Niewski avec un K. Il était d'origine polonaise. Il n'était pas encore écrivain du tout. Il se retrouve avec un commandant sans bateau. Il s'engage dans une compagnie privée. Il se retrouve sur un bateau qui s'appelle le Roi des Belges. Et donc, il est parti dans la marine marchande belge, partir sur ce fleuve. Il restera 8 ou 9 mois. Et c'est une expérience humaine qu'on retrouve tout à fait dans Apocalypse Now et dans, évidemment, Au cœur des ténèbres. Plus il s'enfonce dans la jungle, plus il s'enfonce dans la folie. Et donc, c'est ce mélange-là qui est très fort et qui, ici, est raconté d'une manière très, plutôt originale, parce qu'on n'avait encore jamais adapté... Ici, ce n'est pas une adaptation d'Au cœur des ténèbres, c'est une adaptation du voyage qui lui aura donné l'envie d'écrire Au cœur des ténèbres. Donc, il a son propre Kurtz joué par Marlon Brando dans Apocalypse Now. Il a son propre Kurtz, le type un peu fou, qui a perdu ses valeurs et ses repères par rapport à ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec des êtres humains, même s'ils sont noirs et esclaves. Et donc, voilà, c'est un récit très fort, très dense. Graphiquement, c'est prodigieux, on montrera peut-être des pages. C'est une technique tout à fait particulière pour ceux qui s'intéressent. Il part de monotypes et d'impressions à l'envers, où il passe par des rouleaux d'impression sur sa page à l'envers, ce qui lui permet de repasser au pastel blanc. Donc exactement le contraire de ce qu'on fait d'habitude, ces dessins. Et ça donne une densité qui est raccord avec le propos. Plus on s'enfonce dans ces pages, plus c'est lourd, plus c'est poisseux, plus c'est dense, on sent la chaleur, le malaise. Toutes ces forces qui viennent se mettre autour de lui, surtout dans ce voyage qui n'a a priori de moins en moins de but et de moins en moins d'espoir. Donc ça, on retrouve dans les pages. On en sort épuisé.
Moi, j'ai arrive pleuré à la fin.
Ouais. Triplé aujourd'hui. Hein. C'est mieux que le canot dans son dernier.
Ça va pas du tout en ce moment.
On fera la psy de Myriam après. Donc voilà, c'est, je pense, c'est un album qu'on peut a priori conseiller pour ceux qui aiment la bonne bande dessinée, les bons romans graphiques, a priori les bonnes histoires. Avec des repères qu'on a qui sont là aussi dans la culture populaire. Joseph Conrad, a priori, peu d'adolescents ne l'ont pas lu et peu d'adultes n'ont pas vu les films dont on a tiré. Je finis là-dessus par rapport à ça. Si on peut conseiller évidemment la lecture de la BD, il faut absolument voir le making-of, voilà, qui a été tiré d'Apocalypse Now. Vas-y, vas-y.
Non, mais c'est ça le problème, c'est que moi, j'ai vraiment aimé la BD. Je trouve que le contraste entre le côté très noir, charbonneux et le côté très rond des personnages est super intéressant. Il y a plein de planches qui sont vraiment magnifiques. Après, je trouve que, bon, de un, il n'y a pas un grand enjeu narratif, c'est-à-dire qu'on suit Conrad qui avance de poste en poste sur le fleuve Congo.
Mais c'est une descente aux enfers, lente et inexorable.
Oui, mais par exemple, moi, je n'ai pas vu vraiment la progression. J'ai eu une accumulation comme ça d'étapes, mais pas vraiment de longues descentes. Absolument
impressionnant. C'est ça qui fait la moiteur de la chose et qu'on retrouvait dans le bouquin de Conrad. C'est que cette folie n'explose jamais. Il y a un moment, pas de règlement de compte clair entre les personnages. C'est toujours des non-dits, c'est toujours le poids de la société. C'est ces choses-là qui sont très fortes. Et je trouve que c'est bien rendu dans le bouquin où c'est tendu jusqu'à la fin.
On comprend pas pourquoi. Si on comprend évidemment pourquoi, on imagine très bien les conditions. Mais je trouve qu'il donne pas forcément énormément de clés ou d'interprétation, simplement de lecture, pourquoi finalement ces mecs sont devenus des vrais salauds, pourquoi certains s'en sortent et pas d'autres. Et finalement, il remet pas vraiment en contexte énormément l'histoire, et donc
On suit le truc.
On reste pas mal en surface. Hein.
On reste sur un personnage, en tout cas.
On reste sur un personnage. Et on a une accumulation d'autres personnages qui sont pas toujours assez creusés pour vraiment en tirer des conclusions ou une lecture que lui aurait pu faire, une interprétation, parce que c'est une histoire qu'on connaît, finalement, surtout ici en Belgique. Mmh. Enfin, on voit plus ou moins de quoi il s'agit, le colonialisme. Ouais. Donc on sait plus ou moins de quoi il est question, mais ici, je trouve qu'il pêche par manque de... Oui, de bah, un peu donner ce, lui sa lecture des choses, pourquoi ces gens sont... glissés, ont dérapé. Ça, ouais. Après, je trouve que c'est vraiment une mise en image assez époustouflante. Il y a plein de...
Il faut préciser que c'est 160 pages. Ouais, enfin, c'est
du lourd, c'est épais. C'est...
Et ça ne se lit pas en 10 minutes non plus.
Non, c'est ça.
Pas Cédric.
C'est pas Cédric, non, c'est sûr.
Oui.
Mais toi, tu n'as pas poussé les investigations.
La BD, je ne connais vraiment pas. Les dernières BD que j'ai vraiment bien connues, c'est Eric Castel.
Je savais qu'on avait
en 1988.
Et Modeste et Pompon.
Voilà. Donc,
dis jamais de mal de Modeste et Pompon.
Jamais, je n'oserais pas.
Ne dis pas de mal. Voilà. Mais par contre, je trouve ça assez magnifique dans la mise en image, effectivement. Je partage ton avis par rapport à la progression. On passe effectivement d'étape en étape sans vraiment qu'il y ait un moment. Quelque chose qui nous donne envie vraiment de lire la page suivante. Moi, c'est un peu ça, c'est comme ça que je l'ai pris. Maintenant, c'est la dénonciation du colonialisme est intéressante. Les coups de fouet, tout ça, c'est très très bien rendu. C'est tellement bien rendu que l'image est, enfin, par une image magnifique, en fait, quelque part. Donc, difficile d'en dire du mal, sincèrement. Mais je suis resté un petit peu. Voilà, difficile d'en dire du mal, mais voilà, ce ne serait pas son meilleur défenseur en tout cas.
D'accord. Oui.
Moi, j'ai pas grand chose à rajouter, effectivement.
Bon, alors ça.
Voilà. Non, c'est ça. Non, je trouve ça très beau, mais effectivement, peut-être pas. Enfin, comme je l'ai dit tantôt, peut-être pas assez en profondeur dans les personnages. Mais j'ai passé un très bon moment en le lisant.
C'est peut-être l'occasion de relire le bouquin de Conrad. Basiquement, on a beaucoup parlé d'adaptation, c'est très à la mode ces derniers temps.
C'est peut-être ça aussi que.
Voilà. Il se fait que moi,
je ne suis pas rentré dedans. Voilà.
C'est un bouquin qui était important quand j'étais adolescent.
C'est pour les gens érudits, évidemment, voilà. Hein, Kevin.
Non, c'est le bouquin qu'un prof te met dans les mains quand t'es en secondaire et ça faisait partie des bouquins. Et qui reste important. Ça reste un bouquin référentiel aujourd'hui sur la folie et effectivement sur le colonialisme. Ce n'est pas que ça. Je trouve que ça parle des hommes autant que d'une période de l'histoire.
On va conclure ?
Ah oui, pardon. Oui.
Non,
c'est toi. Tu n'arrêtes pas de
m'interrompre. Pour une fois, qu'on se laisse pas tout
de suite. Ce que je voulais juste rajouter, qu'effectivement aussi, Apocalypse Now, ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai dû le voir quand j'avais 15 ans, et donc je n'ai pas spécialement raccroché le bouquin à ça. Effectivement, maintenant, quand tu parles, oui, il y a des petits trucs qui font tilt, mais...
Voilà, moi, ça fait partie, c'est une pièce dans un puzzle plus large, quoi.
Donc peut-être est-ce effectivement avoir lu et vu avant de lire ça.
Peut-être.
Bon, ben moi je lui mets quand même un bon petit 9 sur 10.
Un bon 7.
Un 7.
Moi je restais sur mes... Qui est un 9 pour pas dire 10.
Un 10
tu Allez, je dis 10, je l'assume 10. Jusqu'au bout, un 10.
Bon, rapidement, un coup de cœur pour terminer. Je vais aller très vite. Suns, je ne sais pas comment on prononce. S-U-U-N-S. Oui, mais ce n'est pas de l'anglais, c'est du thaï. Donc, je ne sais pas, en thaï, ils disent peut-être Suns. On ne le sait pas. Bref, c'est le nom d'un groupe canadien qui a sorti un album en mars. C'est son deuxième album, il s'appelle Images du futur. C'est de la musique électronique, anxiogène, bruitiste, comme on n'en fait plus. C'est extrêmement étrange, c'est tout à fait envoûtant. Le groupe a fait la première partie d'Apparat aux Nuits Botaniques au mois de mai. C'était une super claque, en tout cas, moi j'ai vraiment. Ça m'a retourné. Donc voilà, album Images du futur de Suns. Vraiment, une grande expérience.
C'est un groupe qui donne l'air con, en fait, quand on en parle.
C'est vrai, donc il vaut mieux ne pas trop en parler.
Et te le garder pour ça.
Voilà. Et toi, Kevin ?
Moi, j'aimerais bien, une fois n'est pas coutume, mettre en avant une BD, justement, dont on a failli parler autour de cette table. C'est Georges Clooney. Georges Clooney avec un S, qui est un bouquin truffé de fautes d'orthographe dont le dessin est tout pourri. L'histoire est vraiment.
C'est au Magicolor, non ?
C'est ça, exactement. C'est colorié au Magicolor. C'est au départ juste un blog que le mec
à balancer comme ça sur internet gratuitement, et puis l'a complété pour faire le tour de l'histoire, et on l'a sorti en BD dans un gros volume qui fait je crois 400 pages. Mais c'est de l'humour complètement barré, à côté, enfin c'est super drôle, c'est super moderne, et ça se fout de soi-même en même temps. Enfin, le dessin est tout pourri parce que c'est Magicolor, etc. C'est écrit façon primaire avec des lettres rondes, etc. Mais à côté de ça, le mec, il fait de l'animation en 3D, il fait des pubs pour Jean-Paul Gaultier, quand on voit un petit peu, on se rend compte que c'est pas n'importe quoi. Effectivement, chaque case est super bien mise en page. On se rend compte qu'il y a du boulot derrière ce truc qui a l'air super enfantin à la base. Et c'est vraiment, j'ai dû avoir une bonne dizaine de fous rires intégraux sur la longueur du bouquin. Et voilà, c'est. C'est juste un petit traiteur, il est un peu cher pour le genre de bouquin que c'est.
Et comment s'appelle le monsieur qui l'a fait ?
C'est Philippe Valette.
C'est un Belge ?
Non, c'est un Français, c'est dans la nouvelle collection qui s'appelle Tapas, qui est Delcourt, qui a repris les bandes dessinées girly que faisait Flux Glacial. On se retrouve un peu dans cet esprit-là, très jeune, très contemporain, et très drôle, voilà. Et très régressif.
Laurent, tu veux nous parler de musique, évidemment.
Évidemment. Non, mais on parlait de Daft Punk. Ce sont les Daft Punk et Nile Rodgers, qui est donc un des fondateurs de Chic, et dont l'autobiographie sort en français. Et donc, qui est une autobiographie complètement incroyable. Enfin, si la moitié du tiers de ce qui est dedans est authentique, ce type a une destinée, une vie complètement...
T'en parlais dans tes papiers.
Complètement, oui, complètement dingue. Donc c'est le cofondateur de Chic, mais c'est aussi le mec qui a écrit des tubes pour Madonna, David Bowie, Let's Dance, c'est lui, Duran Duran, In Excess. Enfin, il a une carrière de fou et une vie absolument fantasque et déglinguée, qui est faite de strass, de coke et d'autres.
J'aime bien
quand il y a un petit peu de troc, oui. Et de fêtes et des choses comme ça. Et donc il vient aussi d'une famille complètement originale et déglinguée. Donc voilà, il y a tout un itinéraire qui est assez passionnant. Chic, l'autobiographie de Nile Rodgers.
D'accord.
C'est Chic, voilà.
C'est aux éditions. Ça n'est pas encore sorti, ça va sortir.
C'est sorti, c'est aux éditions rue Fromentin, si je ne dis pas de bêtises.
Tu es sûrement très au courant de tes chances de choses. Liver Stratton.
Oui. Double coup de cœur, vite fait. Le premier, c'est l'album de
Tu tires toujours la couverture à toi. Double coup de cœur.
Vite fait. Je l'ai tiré, mais je l'ai remis.
D'accord.
C'est l'album de Deer Hunter, Monomania. Donc Deer Hunter, c'est un groupe indie rock ou rock, ou je sais pas, je me connais pas suffisamment, mais en tout cas c'est un groupe de rock,
de
je
musique.
Pense. Oui, de musique, oui. Avec de la musique.
Oui.
Et qui fait donc un album qui est un petit peu plus cracra que un petit peu plus lo-fi que les autres, mais ça reste toujours. Il y a toujours dans ces albums l'un ou l'autre morceau qui sont des vraies tueries intégrales. Et voilà, je le conseille à tous les gens qui aiment bien les guitares et les choses comme ça. L'autre, c'est une jeune fille qui s'appelle Coily, C-O-E-L-Y.
C'est pas le nom d'une maladie de l'intestin, ça.
C'est l'obsession, c'est la thématique du jour.
C'est une jeune fille, je pense qu'elle est belge, que j'ai découverte il y a... quelques jours au bazar dans un petit concert vraiment très 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 intime où elle a fait une demi-heure de rap qui était hallucinant, vraiment. Et j'ai trouvé cette fille d'un talent. Elle a commencé avec un a cappella d'Alicia Keys jusqu'à des lyrics de Busta Rhymes au même rythme, en passant par des. Enfin, elle sait tout faire. Elle a un talent dingue et elle s'appelle Coily. Et à mon avis, elle devrait.
Et elle a quelque chose, un disque.
Je pense qu'elle vient de sortir un album, dont je te coupe directement l'herbe sous le pied, je ne connais pas le titre. mais c'est très très bien. Vraiment, je vous conseille sincèrement de découvrir cette jeune fille, parce que c'est très 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 bien ce qu'elle fait.
Quel autre chose.
Oui, bah ça m'a donné envie.
Oui, quelle est.
Olivier.
Bon, moi, très rapide, plutôt des choses à voir sur Internet pour l'instant. C'est un animateur qui s'appelle Lee Hardcastle, que j'ai découvert en fait quand tout le monde regardait soit l'Eurovision, soit The Voice. Il y avait l'excellente émission Trax sur Arte.
Et qui faisait.
Est-ce que ça n'est pas une excellente émission, Laurent, aide-moi.
Complètement.
Voilà.
Ça fait quand même mieux l'Eurovision.
Ben non, c'était mieux d'être ce soir-là parce que justement, il montrait Lee Hardcastle. Donc Lee Hardcastle est un Anglais qui fait de l'animation en pâte à modeler, absolument poilante et surtout dans un genre complètement adulte et très film d'action. Donc il refait des scènes de Die Hard où les trucs explosent, pètent, très très physique. Là, il a fait un petit film d'animation sur une attaque d'aliens qui se transforme. Alors ça reprend les codes des références zombies, SF, mis dans l'animation. Donc on est très loin de... nos amis Ernest et Célestine qui font pas de pâte à modeler, mais des choses comme ça. C'est pas du tout pour enfants. C'est complètement trash, c'est poilant. Et c'est gratuit sur le net. Et il a fait une quinzaine, vingtaine, et de parodies et de courts-métrages à lui. Lee Hardcastle, on tape son nom et on trouve.
Voilà. Mais merci Olivier.
C'était vite fait.
Ah ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Liberté! Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe d'avoir bravé la pluie et le coronavirus pour vous livrer cette belle émission. N'oubliez pas de nous lire aussi, c'est important parce que des fois on parle pas bien, mais on écrit toujours très bien. Oui, c'est dans Focus. Lisez-nous, c'est ça notre magazine. À tout bientôt. Au revoir.
Salut les copains.